L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Et c'est parti pour l'atelier numérique. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bienvenue, bon week-end. Et c'est parti donc pour deux heures dédiées aux nouvelles technologies et à l'économie numérique. Je suis ravi de vous retrouver, d'autant que c'est la dernière de la saison. Après, nous allons nous reposer quelques petites semaines pour revenir à la rentrée. Mais sachez que nous serons toujours là, malgré tout, tout au long de l'été, avec une sélection des meilleurs moments de cette saison 2014-2015. L'atelier numérique, donc, chaque samedi, vous le savez, 16h-18h sur BFM Business. Nous allons dire bonjour à toute l'équipe de l'atelier, à Pauline Cantner qui est là, bonjour. Bonjour à Lila Megraoua, bonjour à Jean de Chambure, Guillaume qui est, vous le savez, du côté de l'atelier US, est avec nous aussi, bonjour Guillaume.
Bonjour.
On va retrouver toute l'équipe de l'actu, de l'atelier pour l'actu de cette semaine, notre dico facétieux du net, le cyber gadget avec Antoine, qui sera là aussi pour le crash test d'ailleurs tout à l'heure. Et puis, nous nous intéresserons aussi à un personnage que vous ne connaissez peut-être pas, il s'agit de Cédric Villani, que vous avez rencontré, Lila et Jean, qui est un mathématicien de renom, voilà, et il... Entretien exclusif et très intéressant visiblement, hein, que vous avez eu avec ce monsieur. On en parlera tout à l'heure. On va parler de recherche mathématique, de programmation informatique, etc. Notre web stratégie, la transformation numérique de la RATP. Notre passion selon Sanet, on s'intéressera avec toute l'équipe aux tendances, les tops et les flops de cette année 2014-2015 dans le monde des nouvelles technologies. On verra ça aussi tout à l'heure. Notre dossier de l'atelier avec en interview Gilles Babinet, notre World Tour Afrique du Sud, l'actu vu par 01net.com et le crash test d'Antoine. Voilà, vous savez tout. Soyez les bienvenus, c'est parti pour l'atelier. Et on va commencer par l'actu vu par toute l'équipe. Pauline,
bonjour.
On va commencer ensemble.
Alors oui.
Bonjour Pauline.
Moi, je vais vous parler de la santé mentale des entrepreneurs. Gloops.
Gloops. Ah oui.
Gloops. Ouais.
Vous voulez dire parfois que c'est pas terrible, terrible ?
Ouais. Tout à fait. Et du coup, bon, à l'approche des vacances, je me sens l'âme de faire des recommandations.
Oui, c'est vrai.
Donc, les entrepreneurs, sortez vos bikinis et allez prendre le large. Reposez-vous.
Ah oui. Bon, on n'est pas obligé de mettre un bikini. C'est vrai.
Non, pas forcément.
Voilà, on peut mettre un petit maillot short, etc. Un bikini, c'est quand même assez, ça peut être assez osé.
Alors, peu importe. En tout cas, il faut se reposer parce que ça va mal. Ça va très mal.
Oui.
Oui, ça va très mal. Alors, une étude menée par un professeur, monsieur Michael Freeman, donc pas Morgan Freeman, ni Michael Freeman, le photographe de Géo, mais bien...
Ça n'a rien à voir.
Non, pas du tout. Monsieur Michael Freeman, qui est sociologue et aussi ex-entrepreneur. Il a interviewé 242 entrepreneurs américains et les chiffres sont assez édifiants. 49% d'entre eux reconnaissent avoir des troubles psychologiques. En premier, dépression pour 30% d'entre eux.
Oh.
Troubles de la concentration, hyperactivité, anxiété. Bref, ça ne va pas bien.
Oui.
Et c'est d'autant plus édifiant quand on sait que, en fait, aux États-Unis, les chiffres, c'est entre 7 et 10% de la population serait sujet à la dépression. Donc on est loin quand même des 30% qui ont été cités dans l'échantillon du professeur. C'est aussi d'autant plus édifiant quand on véhicule aujourd'hui un cliché fou sur l'entrepreneuriat, les entrepreneurs,
c'est dynamique, on est toujours en
forme,
on se lève à 4h du mat pour faire du sport.
Exactement.
Et puis après on y va, on enchaîne toute la journée.
Exactement. Et en fait, ce cliché, ça a été dénoncé par beaucoup de monde, notamment Eric Ries, qui dit l'entrepreneuriat, ce n'est pas cool, c'est du boulot. Ça dessert aussi en fait beaucoup de gens, c'est-à-dire que les entrepreneurs ont du mal à parler, ils ont peur. Ils ont honte même d'avouer la figure du CEO, du fondateur, c'est ce type invulnérable qui tient le choc. Et en fait, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de pression, qui met la barre des exigences assez haut et qui souffre. Et en fait, les gens ne parlent pas et des gens ont payé de leur vie. Encore récemment, un entrepreneur de 26 ans qui s'est suicidé tragiquement. Donc ça existe et les voix s'élèvent aujourd'hui pour faire parler les entrepreneurs et leur dire... communiquer, vider votre sac parce qu'on peut pas continuer comme ça. Et donc c'est le cas d'ex-entrepreneurs qui via des blogs. Il y a aussi une belle initiative de start-up, c'est Seven Cups of Tea, qui propose un service d'écoute 24
heures sur 24. Ah oui, c'est SOS entrepreneur en quelque sorte.
Exactement, ils ont créé une branche dédiée parce que c'est fou.
Ah ouais.
Complètement. Et heureusement. Mais en tout cas, voilà, mon conseil, prenez des vacances, reposez-vous.
Voilà, le divan. Installez-vous et parlez, on vous écoute, cher entrepreneur. Heureusement, on n'est pas tous comme ça, hein. Enfin, vous n'êtes pas tous comme ça. Jean de Chambure.
Oui.
Alors, vous voulez vous allonger, vous voulez parler ou...
Alors, moi, je vais vous parler.
Vous pouvez parler,
aussi...
mais pas allonger.
Non, mais on va écouter. Je vous assure qu'on est très content de partir en vacances, qu'on est très heureux de faire la radio, qu'on est enthousiaste. Mais alors, néanmoins,
d'ailleurs,
là, j'ai aussi une autre
Jean, nouvelle. Alors, juste une petite chose. Jean qui vient toujours tirer à quatre épingles, cravate, veste, etc. Enfin, de costume.
Oui.
La petite chemisette. Estival.
Exactement.
Ah oui, on sent que c'est les vacances qui arrivent là, les amis.
Oui,
hein.
oui.
Je pense qu'heureusement qu'on s'arrête parce que la semaine prochaine il serait venu en maillot.
Oui.
Hein. Donc
voilà.
Là, vraiment,
là,
on a eu chaud.
Il est vraiment temps de s'arrêter.
Oui, je le vois bien.
Faire la dernière.
Je le vois bien. Donc Jean.
Non, alors écoutez, là vraiment, ça va pas. C'est un mauvais scénario. La Charlie Chaplin qui tourne vraiment très mal. C'est-à-dire que c'est un ouvrier de Volkswagen qui a été tué par un robot qui était en train de travailler dans une chaîne de production en Allemagne.
Alors c'était il y a une dizaine de jours. Voilà. C'est terrible cette histoire-là.
C'est terrible. Bon, c'est vraiment terrible. Ça arrive quand même dans une usine de Volkswagen qui est parmi les usines les plus,
enfin voilà, au top technologique.
Top, hein. Volkswagen est une superbe marque. Ils sont d'ailleurs les ouvriers de Volkswagen ont des salaires qui sont d'excellents salaires.
Mm-hmm.
C'est, bien sûr, parce que heureusement d'ailleurs, c'est une boîte qui marche hyper bien mondialement. C'est juste génial. Et bien voilà, là il y a eu un.
Est-ce qu'on sait à quoi c'est dû?
C'est la machine qui n'a pas
fonctionné. Ce qui s'est passé, c'est que
c'est extrêmement violent.
Vous savez que c'est ces machines qui assemblent les voitures à une vitesse folle. C'est incroyable d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ces machines, c'est que l'être humain ne peut pas aller aussi vite.
Ouais.
Et le souci,
donc,
c'est que ce jeune homme est rentré en fait dans la bulle de la machine. En fait, il y a des sécurités en théorie qui sont là parce que cette bulle, dès que quelqu'un rentre dedans, la bulle le détecte et arrête la machine. Et là, malheureusement, la machine ne s'est pas arrêtée. Et donc, ça va tellement vite et c'est tellement gros ces trucs-là que ça a pris le gars et ça l'a plaqué au sol. Enfin voilà, et il est mort sur le coup, je crois.
Exactement.
Donc c'est pas terrible. Mais bon. Alors de là à croire que les machines vont tuer les humains, non. Hein, c'est simplement là, je pense, une erreur d'inattention de cette personne-là et un bug de la machine.
Ouais,
mais et ça arrivera de plus en plus parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui il y a des milliers de machines comme ça partout. Hein.
Ce qui est effrayant, c'est que cette petite erreur d'inattention amène à une chose horrible, quoi.
Mais statistiquement, il y en aura de plus en plus.
Ouais.
Parce que dans toutes ces usines, aujourd'hui, où on fabrique des voitures par milliers par jour, il y a des milliers de robots comme ça.
Mmh.
Et de temps en temps, bien sûr, il y a des bugs, hein, comme il y a des problèmes, des fois, des ascenseurs qui décrochent, des choses comme ça. Donc, c'est terrible.
Voilà.
Très bien. Petit détour du côté de San Francisco, Guillaume.
Oui, alors naturellement, vous savez tous ce qu'est un wearable, mais avez-vous déjà entendu parler des earable?
Ah,
earable,
là,
ça s'écrit... Non, alors ça s'écrit ear, donc H-E-A-R, comme écouter ou entendre en anglais. Et donc un earable, c'est un objet connecté qui permet de contrôler son environnement sonore. On l'a tous vécu ce moment où on espère faire une sieste dans le TGV, avoir un peu de calme, mais alors malheureusement, il y a un bébé qui hurle à la mort à côté. Et bien, peut-être que grâce au earable, ce genre de situation ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Alors c'est comme
du vécu, j'ai l'impression un peu, hein, Guillaume, quand même, non?
Oui, tout à fait. Ouais,
ça se sent.
Beaucoup de souffrance qui.
On le sent quand vous le racontez, hein.
Oui. Oui, alors du coup, donc c'est lancé par la start-up Doppler Labs. Et donc ça se compose de deux écouteurs sans fil et d'une application smartphone. Et ça permet en fait tout simplement de monter ou baisser, voire supprimer le volume sonore environnant. Mettons par exemple que vous êtes à un concert au tout premier rang, la musique est extrêmement forte, ça vous casse les oreilles. Et bien grâce à ce petit système, vous pouvez diminuer le volume de la musique pour que celui-ci revienne à un niveau raisonnable. Inversement, vous êtes tout à l'arrière du concert et vous n'entendez pas très bien, vous pouvez au contraire monter le volume de la musique pour entendre de manière satisfaisante. Et là où ça devient très intéressant, c'est qu'on peut même sélectionner quels sons on souhaite augmenter ou diminuer. Pour rester sur l'exemple du concert, mettons que les basses sont beaucoup trop fortes et que du coup vous n'entendez pas le reste des instruments. Eh bien, vous pouvez diminuer le niveau des basses et au contraire monter le volume des autres instruments pour rééquilibrer. Autre exemple, vous êtes dans un café bondé avec une amie et il y a un brouhaha pas possible autour, une équipe de rugbyman aviné à côté et vous êtes obligé d'hurler pour vous entendre parler. Et ben vous pouvez diminuer l'ambiance sonore du café et augmenter le volume sonore de votre ami pour mieux vous entendre.
Wow.
Donc voilà, donc il y a vraiment tout un tas d'applications possibles.
Mais pour les malentendants, ça peut avoir un sens aussi, non?
Oui, tout à fait, oui. Il y a aussi un, ça peut tout à fait. Alors, je crois qu'ils ont pas, encore prévu cet usage-là pour l'instant, mais on peut vraiment imaginer un, il y a un nombre de possibilités, incroyables.
Parce que si on peut effectivement, comme ça, capter le son à divers endroits, on peut imaginer que pour les personnes qui ont des problèmes auditifs, ils pourraient, par exemple, capter la voix de quelqu'un, parce qu'on sait que c'est souvent les brouhahs, enfin, tous les bruits parasites qui posent problème à ces gens-là, pourquoi pas?
Oui, tout à fait, ouais. Il y aurait sûrement un usage médical possible. Et du coup, ils ont, enfin, la start-up Doppler Labs a bouclé sa campagne Kickstarter avec succès en juin. Et là, ils viennent de lever 17 millions auprès de différents investisseurs. Donc, en tout cas, ça a l'air de susciter l'enthousiasme des investisseurs.
Très bien. Voilà. Les e-Rebels. C'est comme ça que vous avez dit, hein?
Tout à fait. E-Rebels.
Lila Megrawa.
Oui.
Avant de partir en vacances, et là je sais que vous en mourrez d'envie, comme nous tous. Hein?
Mais oui.
Il vient de loin,
chaud, il fait beau.
Ce soupir vient de loin, les amis. Lila, donc.
Alors, je vais quand même vous parler plus ou moins de rentrée, dans la mesure.
Non,
où...
c'est pas vrai. On part en vacances et vous allez nous parler de rentrée.
Mais non, mais en même temps, je vais vous parler d'une initiative, initiative qui devrait vous permettre de mettre du beurre dans les épinards, comme on dit, pendant les vacances.
D'accord, c'est très
pendant
bien.
Les vacances. Bon. Alors, sauf si vous vous êtes rendu au pôle Nord ces derniers mois, vous avez dû entendre parler de la COP 21.
Et bien sûr, gros événement à Paris à la fin d'année.
Exactement,
oui.
Lié au changement climatique, qui devrait réunir tous les partis concernés, acteurs, exactement, oui. Cocorico. Et donc en fait...
Cocorico.
Ouais. Alors en fait, on a l'ADEME avec le ministère du Développement Durable et la mairie de Paris qui ont organisé une exposition la semaine dernière sur le parvis de l'hôtel de ville, une expo baptisée Innove Climat. Le rapport avec les nouvelles technos, c'est que tout simplement l'idée c'est de mettre en valeur l'innovation technologique au service de la lutte contre le dérèglement climatique. Il y a 25 projets qui ont été présentés. Parmi tous ces projets, Coulicar. Donc là, je reviens sur les vacances. Alors,
Coulicar. Eh bien, dites-moi.
Coulicar. Donc en fait, Coulicar se place sur le marché un peu des... On en a déjà parlé, des Carnomies, Trip and Drive, qui sont des services d'autopartage entre particuliers. Mm-hmm. Sauf que là, la spécificité... Donc en fait... Coulicar, pour rappeler quelques chiffres, part du principe, une voiture est stationnée 95% du temps.
Ben oui.
Or, près de 20% apparemment des ménages ne disposeraient pas de véhicule. Alors, pourquoi ne pas les partager? Donc, eux, ce qu'ils proposent, c'est en fait de... Ils ont mis en place, ils ont conçu ce qu'ils appellent une cool box. Donc en fait, cette cool box, en tant que propriétaire de voiture, vous allez la disposer sur votre à l'intérieur de la voiture,
d'accord,
contre le pare-brise.
Ouais.
Le locataire membre de Coulicar va avoir sa fameuse carte de membre, mm-hmm, qui en fait va être en fonction des voitures qu'il va louer à partir de son app ou de la plateforme web, il va pouvoir avoir accès sans jamais avoir eu besoin de rencontrer le propriétaire de la voiture pour faire un échange de clés,
d'accord,
il va pouvoir entrer dans la voiture.
C'est un peu comme Autolib, finalement.
Enfin, un peu, exactement. Sauf qu'en fait, c'est appliqué
au particulier. En fait, pour le locataire, il s'en fout. Il prend la première voiture qui lui est disponible et qui,
exactement,
est à proximité, en fait.
Voilà.
D'accord. Et chaque voiture appartient à un particulier.
Tout à fait.
C'est génial, cette idée.
Coulicar.
Ça arrive?
C'est déjà en place.
Très bien. Jean,
oui.
Vous qui êtes la coulitude même,
oh ben écoutez,
il vous faut une Coulicar.
Ouais, moi j'aime bien cette voiture-là. Alors
qu'est-ce que vous avez
fait ça à Paris? Juste un mot, COP21, c'est bien aussi à Paris.
Oui.
Vraiment, il fait chaud.
Non, c'est vrai.
parce que moi je me rappelle encore de ce séminaire sur le changement climatique qu'ils avaient fait à Helsinki au mois de en plein hiver. Franchement, c'était difficile.
Mais c'est cet hiver en plus, hein, je crois. Hein.
Cet hiver.
Ouais, moi j'espère qu'il fera un peu chaud quand même.
Oui,
ça c'est du bon sens. Faites des sujets dans un endroit où on a vraiment chaud. C'est-à-dire aller dans un endroit où il fait chaud. Faites ça l'été pour que les gens eux-mêmes suent vraiment, enfin qu'on voit. Mais non, mais c'est-à-dire qu'on peut pas parler de réchauffement climatique
quand il fait frais.
Voilà, ça c'est vraiment très basique. Mais s'il vous plaît, les ordinateurs, un petit peu de bon sens. Bon, je reviens sur mon sujet. C'est David Ribouc. Alors lui, très drôle. C'est une sorte de Robin des Bois parce qu'il n'aime pas les gens qui jouent. Il n'aime pas les sites qui font que des paris en ligne. Donc, qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur ? Eh bien, il fait une attaque contre de la fameuse attaque de déni de service, c'est-à-dire qu'il envoie des tas de petits messages très très vite pour faire exploser les serveurs. Eh bien, il fait ça. Et en plus, il demande, là où ça devient drôle, parce que vous me direz jusque-là, c'est classique, votre hacker, là, c'est un petit hacker de facile. Là, c'est drôle, c'est qu'il demande à être payé en bitcoin. Parce que puisqu'il est dans la... Voilà. Donc, c'est une sorte de démonstration par l'absurde. Donc, je trouve ça...
C'est assez drôle.
Assez amusant, voilà. David Ribouc, il s'appelle.
Quand on sait que certains sont amusés à pirater des porte-monnaies Bitcoin, c'est la boucle est bouclée, là.
Exactement.
Hein. Très bien, on va revenir dans un instant pour la suite de cet atelier numérique sur BFM Business. Dico Facétieux du Net avec Jean de Chambure. Jean, on va s'arrêter à quelle lettre en ce samedi ?
Ah, alors, on va s'arrêter à la lettre G, tiens.
Bon, voilà, dans un instant. Hein, la lettre G, le gadgeto avec un G. Les gadgetos de Antoine.
On est cohérent.
Voilà. Et puis notre enquête de l'atelier dans quelques instants. À tout de suite. On est là dans quelques minutes.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
À suivre dans cet atelier numérique sur BFM Business, les gadgetos d'Antoine Cyr, bien sûr que vous attendez avec impatience. Mais auparavant, notre dico facétieux du net avec Jean Chambure qui a le regard facétieux cette semaine pour cette dernière de la saison. Jean.
Oui, François.
On s'arrête sur la lettre G.
Oui.
Pourquoi la lettre G dans ce dico facétieux cette semaine ?
Alors, grâce à un certain Eiji Tsuburaya. Qui est Eiji Tsuburaya, François ? Et pardonnez-moi si l'accent japonais n'est pas parfait.
Écoutez, il n'est pas parfait.
J'ai compris que c'était un homme du Japon. Eh bien, il y a eu un petit doodle cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu. Assez compliqué, avec cette espèce de petit jeu en ligne, pour rendre hommage au 114e anniversaire de ce monsieur, qui était né donc il y a 114 ans. Alors, qui est ce Eiji Tsuburaya et pourquoi la lettre G ? Je vais vous expliquer. En fait, c'est un homme qui a connu évidemment la période de la guerre chino-japonaise, qui a été très marqué par l'aviation, par les états de d'innovation d'une certaine manière. Militaire technologique de cette époque-là et qui est revenu avec un fort sentiment patriotique japonais mais aussi avec une envie de faire des films étonnants, des films à effets spéciaux et ce n'est ni plus ni moins que le grand inspirateur de
Godzilla.
Et voilà, vous
ça y est,
êtes,
je
François.
Vous ai vu avec votre
Godzilla,
G.
Voilà,
c'est
voilà.
Un gros G, là, hein.
C'est un gros G, gros costaud qui
costaud,
ne souffre pas beaucoup la contradiction.
Ah oui, c'est ce monsieur qui a inventé
pas
Godzilla.
Pas facile d'être pas d'accord avec Godzilla. Eh oui. Absolument.
D'accord.
C'est monsieur qui a inventé Godzilla.
C'est un vrai phénomène au Japon.
C'est un phénomène incroyable. Il y a eu un remake il n'y a pas très longtemps au cinéma. Donc c'est sorti en 54 sur les écrans japonais. C'est-à-dire à peu près, enfin précisément 21 ans après King Kong. Donc qui a beaucoup impressionné donc notre cher ami Tsuburaya. Et voilà, donc Godzilla, immense succès, mais ça a été quelqu'un en fait qui a fait juste 250 œuvres cinématographiques avec des monstres et des surimpressions et des petites maquettes et des monstres qui arrivaient pour défendre le Japon quoi. Donc c'est vraiment un cinéaste extrêmement prolixe que Antoine Cyr doit sûrement apprécier. En tout cas, ne serait-ce que pour son œuvre et pour son génie, sa productivité. Alors, quelques mots assez amusants autour de tout ça, puisqu'on est dans notre dictionnaire facétieux. Déjà, c'est cette bête bizarre, ça s'appelle un kaiju au Japon. Le kaiju, c'est la bête bizarre, donc c'est le Godzilla ou c'est même le King Kong. Et les effets spéciaux, alors, intéressant parce qu'on en vient après à des choses qu'on connaît dans le numérique, mais au Japon, c'est vraiment beaucoup basé au début sur la superposition donc de maquettes avec ça date depuis très longtemps, depuis Méliès, etc., des premiers cinéphiles et petits cinéastes surtout. Et il y a eu autre chose qui a marché. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de Senkukai, François, le Ancien, c'est-à-dire cette notion de transformation, le héros qui se transforme.
Oui.
Donc là aussi, c'était en fait un peu un précurseur avec ces idées de la transformation progressive des héros. Et évidemment, nous, ce qui nous plaît dans le digital, c'est le vrai
morphing, c'est-à-dire la transformation, les effets spéciaux, la capacité aujourd'hui avec les effets numériques, les effets spéciaux numériques non plus mécaniques, comme avant mécaniques à l'époque des petites maquettes et du grand monstre, de transformer la tête. Alors là, on s'amuse beaucoup avec les selfies, les smartphones pour faire des transformations de visage assez, assez cocasses. C'est aussi le cas évidemment pour des grands films, en tout cas dans le genre grand spectacle, grande impression, le Terminator et autres, où on voit les héros qui se métamorphosent vraiment au nanocentimètre. On a vraiment l'impression que c'était totalement naturel,
c'est totalement
fluide.
Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant.
Et ça, c'est vraiment vraiment impressionnant. Donc voilà, hommage à Godzilla, hommage à notre cher Eiji Tsuburaya, qui est quand même voilà. Honnêtement, quelqu'un qui n'était pas connu du grand public. Moi, je n'avais aucune idée de ce monsieur, de ce qu'il avait fait. Et on voit qu'en fait, toute son œuvre est très précurseur des films à effets spéciaux numériques qu'on connaît aujourd'hui.
Et alors, on se dit, oh, Godzilla, Godzilla, bon. Mais en fait, le dernier Godzilla qui est sorti, je crois, l'année dernière...
Il a fait un carton.
Oui, alors, c'est, non seulement il a fait un carton, mais en plus, c'est pas un film si mauvais que ça. Bien au contraire, c'est un film divertissant, qui est plutôt bien réalisé avec de très beaux effets spéciaux.
Oui.
Alors, évidemment, hein, c'est pas un film d'auteur, hein, c'est, voilà, c'est un blockbuster. Oui. Mais ça sait se regarder.
Ça sait se regarder. Et les kaijus, ces espèces de grands monstres, en fait, ont aussi, je trouve, un côté sympathique. On a tous un peu envie d'être King Kong, comme ça, un jour ou l'autre, ça serait très, très.
Exactement. Voilà. Bon, pas avoir le même destin King Kong, le pauvre,
parce qu'il
tombe de haut, quand même.
Ouais, après, on a envie de pouvoir rentrer chez soi tranquillement, dormir un peu.
Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Jean de Chambure. Et il est temps maintenant de retrouver la sélection de gadgets d'Antoine Cyr, mesdames, messieurs. Je sais que vous attendez pour certains ce rendez-vous chaque semaine. Vous trépignez d'impatience, comme ça, devant votre radio. Vous voilà soulagé. Antoine est là. Alors Antoine, qu'avez-vous sélectionné pour nous ?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Tesla, mais d'une manière un petit peu originale. Vous savez ce que c'est Tesla ?
Bien sûr.
C'est une voiture électrique.
Magnifique
aux États-Unis. Alors vous savez qu'au début, les Tesla, c'était plutôt des voitures sportives, mais ils sont en train de modifier leur marketing. Et maintenant, Tesla est essentiellement en train de miser sur des limousines, sur des berlines.
Hein. Bien sûr.
Ce sont des,
il y aura
même des
citadines prévues.
Exactement. Hein. Mais pour l'instant, la Tesla sur laquelle l'effort est porté... c'est une berline. Et vous savez que, par exemple, en France, en ce moment, il y a pas mal de taxis qui sont en train de s'équiper en Tesla. Apparemment, ils ont fait des calculs de rentabilité. Alors, je sais pas si c'est avant ou après Uber, mais je connais des taxis, y compris d'ailleurs dans des petites villes, peut-être plus d'ailleurs en ayant à rouler aussi dans la campagne, qui sont en train de s'équiper en Tesla.
Faut dire que l'autonomie d'une Tesla est assez impressionnante. Je crois qu'on dépasse les 400 km, hein.
Oui, tout à fait. Alors. Après, il y a le problème du temps de chargement,
voilà,
c'est-à-dire que si vous la chargez dans une borne Tesla, ça va très vite. Et si vous la chargez sur votre petit chargeur à la maison...
Là, vous avez le temps de boire un coup.
Là, il vaut mieux...
De l'eau, hein,
de
bien
l'eau,
sûr.
Voilà, bien entendu. Bon, eh bien, figurez-vous on est en train d'aller un petit peu plus loin dans le caractère écologique de la Tesla, puisqu'il y a des gens qui sont en train d'inventer un système qui permet aux passants de recharger une Tesla en marchant. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un dispositif britannique qui s'appelle Pavegun et qui donc est installé pour l'instant à Oxford Street, à Londres, et qui entend utiliser les pas des passants pour recharger les Tesla. Donc, à chaque fois qu'une personne marche sur la plateforme qui a été installée en bas d'un immeuble d'entreprise, ses pas génèrent 7 watts. La plateforme est reliée à une Tesla qui se recharge ainsi en temps réel. Et ma foi, dans cet endroit plutôt passant, les pas des passants, justement, ont rechargé tout à fait la Tesla qui est prête à rouler qui est prête à rouler jusque 1500 km à la fin donc de la journée. Alors, Alors, cette entreprise, donc Pavegun, n'en est pas à son premier coup, puisqu'ils ont installé des dispositifs de recharge, mais aussi d'éclairage intelligent un peu partout dans le pays. Ils ont lancé une plateforme de crowdfunding pour déployer de manière plus massive le projet dont je viens de vous parler, et ils ont quand même ramassé, si je puis dire, en 60 heures, plus d'1 million de livres sterling.
Incroyable. Mais vous savez que, par exemple, au Japon, il y a des expérimentations dans des stations de métro avec des sols sur lesquels les gens marchent et qui rechargent en fait assez d'énergie pour pouvoir alimenter en électricité toute la station en termes d'éclairage. C'est assez intéressant.
Voilà. Et puis alors, j'ai une autre petite news qui est assez marrante. C'est Tifi. C'est une cravate qui sert de hotspot Wi-Fi. Alors pourquoi
c'est... Ah, ça c'est, oui, c'est super intéressant. Surtout à la plage cet été, ça va cartonner.
Non, c'est intéressant à la maison et notamment si vous êtes chef de famille. C'est assez, finalement, c'est assez macho comme gadget. Parce que, a priori.
Vous c'est... avez le Wi-Fi, donc c'est exactement, vous le chef de famille.
Exactement.
Le chef du Wi-Fi.
Exactement. C'est-à-dire que si vos enfants s'éloignent trop de vous, ils ont pas le Wi-Fi.
Oh là là, donc ils restent collés à vous.
Oui.
Bon, d'un côté, au bout d'un moment, peut-être qu'on aura envie qu'ils prennent un petit peu le large.
De lâcher, de tomber la cravate.
Et voilà, c'est voilà. Ça. C'est rigolo, ça. Une cravate Wi-Fi. On revient dans un instant pour la suite de cet atelier. On retrouvera Antoine, d'ailleurs, pour le crash test en toute fin de ce rendez-vous. À tout de suite sur BFM Business.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business, la transformation numérique de la RATP. Ce sera notre web stratégie dans quelques instants, mais dans l'immédiat, c'est notre enquête de l'atelier avec un entretien exceptionnel cet après-midi dans cet atelier. Un entretien réalisé par Lila Megraoua et Jean de Chambure. Lila et Jean, vous avez rencontré le célèbre mathématicien Cédric Villani.
Oui François, alors on termine l'année en beauté à l'USI, conférence parisienne de référence s'il en est sur la transformation digitale des entreprises. Et nous terminons donc cette année en recevant un invité de choix, Cédric Villani. Bonjour.
Bonjour.
Alors Cédric Villani, vous êtes mathématicien d'exception, médaillé Fields en 2010. Vous dirigez également l'Institut Henri Poincaré. Vous rendez accessible, pour ne pas dire vulgarisé, bien au contraire, le mathématique par l'écriture de romans tels que Théorème vivant paru chez Grasset. Alors vous êtes intervenu à l'instant à l'USI à propos de la notion d'idée, la naissance d'une idée. Il y a souvent cette idée que l'idée, l'inspiration nous viendrait par la grâce de Dieu, par une muse, quelque chose d'assez inexpliqué. Qu'est-ce que vous en dites, vous ?
C'est vraiment l'impression que ça donne parfois, voire souvent. Et on peut théoriser ça sous la forme de l'inspiration de la muse. Le grand mathématicien indien Ramanujan croyait dur comme fer qu'il y avait une certaine déesse qui venait lui murmurer à l'oreille les bonnes idées. Ce qui est certain, c'est que quand vous êtes sur un projet, quel qu'il soit, où il faut créer quelque chose de nouveau, ce qui fera la différence, c'est un savant, subtil mélange de travail acharné et systématique d'une part, où l'expérience joue un rôle important, et de petites illuminations, de petits flashs dans lesquels c'est l'intuition, c'est le subconscient qui parlera. Tout joue son rôle dans ce petit éclair. Il y a l'environnement, il y a les conversations, et puis il y a quelque chose que vous n'expliquez pas et qui fait que dans une situation qui éventuellement n'a rien à voir avec votre problème, vous avez le déclic.
Alors dans le milieu numérique, l'accent est particulièrement marqué sur ce qu'on appelle les jeunes pousses, les startups. Est-ce que on pourrait rapprocher un projet de recherche mathématique de la vie d'une start-up? Est-ce que, à l'instar d'une start-up, vous avez, c'est une question que je vais poser de manière un peu candide, mais est-ce que vous avez une phase d'itération, de prototypage? Est-ce que parfois vous pivotez? Est-ce que les start-up ne gagneraient pas à s'inspirer de votre méthodo?
Je pense que la méthodologie des startups est acquise par l'expérience et par une très très rude sélection naturelle qui fait que les bons réflexes, les bonnes pratiques ont été mises en place au fur et à mesure. Les pivots, nous voyons cela sans arrêt en recherche. La première fois qu'on m'a expliqué le concept du pivot, c'était une. Je me suis demandé pourquoi on éprouvait le besoin de donner un nom à ce qui, pour nous, fait partie du quotidien. En tout cas, nous avons cela sans arrêt. Au-delà de ces questions d'itération, prototypage et autres, je dirais que le parallèle entre l'esprit de la start-up et l'esprit de la recherche, il faut le voir dans la, qu'est-ce qu'on va dire, les conditions sociales un peu du travail, avec ce qu'on trouve dans les start-up, des équipes relativement réduites, des horaires de travail dingue avec une implication totale où on fait plus la différence entre vie privée et vie professionnelle, une faible hiérarchisation et une grande réactivité. Tout ça, ce sont des caractéristiques qu'on connaît bien dans le monde de la recherche scientifique. La recherche industrielle, surtout sur les grands projets, elle, en revanche, s'apparente plus au processus d'une grande entreprise, avec des échéances, des contrôles de processus, une hiérarchisation plus en place et plus de poids accordé à la sûreté des projets. On voit bien que, dans le cadre d'une recherche industrielle, vous êtes contraint par des impératifs forts de réaliser le projet en temps et en heure, selon des choses assez précises, il faut une prime à la sûreté. Alors que quand vous êtes en recherche fondamentale, en recherche théorique, c'est vous, c'est votre équipe, il n'y a pas grand-chose qui est risqué à part votre réputation. Vous pouvez vous permettre de prendre des risques, de tordre les coups au process. Il y a plus de flexibilité, plus d'engagement.
Une question, Cédric, qui est au fond liée à la... Parce que souvent vous avez défendu ça dans ce qu'on a entendu de vous dans les médias. C'est-à-dire la place des mathématiques dans la société, en France en particulier. On a eu le plaisir d'avoir, il y a très peu de temps, c'est-à-dire en début d'année avec Lila aussi, le média d'or du CNRS, Gérard Berry, donc qui nous disait, mais au fond, voilà, moi je suis à l'Institut, il y a, je crois, 300 à peu près scientifiques, mais il n'y a pas beaucoup de scientifiques qui sont très spécialisés en informatique. Est-ce que selon vous, Cédric, il faudrait qu'on aille plus loin sur ce sujet-là? Je sais que vous êtes engagé aussi dans le sujet de société. Comment est-ce que vous voyez ça?
Depuis des années, la ligne d'attaque, si l'on peut dire, que j'utilise médiatiquement, c'est celle d'une mathématique présentée comme étant intégrée à notre univers. Une mathématique que l'on va retrouver dans la culture, une mathématique qui s'invite dans l'espace littéraire, puisqu'on va la retrouver dans des romans, dans les histoires que je raconte, à travers une mise en scène, une mathématique aussi qui va en résonance avec l'art, avec des questions liées à la culture en général, la mathématique comme partie de notre humanité. Ce faisant, évidemment, je vais moins sur le terrain de choses spécialisées, mais j'insiste sur le fait que la mathématique, comme la science et la technologie en général, font partie de notre univers et de ce qui définit notre humanité. Et sans le développement des sciences, nous penserions différemment, nous écririons différemment, nous parlerions différemment, nos références culturelles aussi seraient différentes. Même si on a coutume de, traditionnellement, de penser au domaine de la culture comme un sujet essentiellement littéraire. Donc ça fait partie de ce sur quoi j'insiste. Donc mathématiques, facteur de culture, quelque chose qui s'intègre dans notre connaissance, mais aussi bien sûr une technologie qui vient se marier avec d'autres technologies et qui participe à la transformation du monde. Pas d'informatique sans mathématiques, et en même temps l'informatique donne à la mathématique la caisse de résonance qui lui permet d'envahir la sphère économique et d'envahir le progrès technologique en général. Gérard Berry, comme vous l'indiquiez, est l'un des très rares académiciens à maîtriser l'informatique. Ce n'est pas très étonnant parce que l'Académie, l'Institut, est une institution qui évolue lentement. Et encore, en science, ça évolue beaucoup plus rapidement que l'Académie française, que du côté littéraire. Mais effectivement, ça va prendre beaucoup de temps avant qu'une population d'académiciens en informatique suffisante soit établie. Et ça traduit le fait que de nouvelles disciplines, petit à petit, apparaissent, se différencient des autres. Il fut un temps où les sciences formaient un tout, et d'ailleurs c'était lié à la philosophie. Petit à petit, s'en sont séparées différentes branches. Et il y a eu un moment où mathématiques et informatique étaient confondues, c'était il y a quelques décennies seulement. Et l'une a pris son indépendance par rapport à l'autre, indépendance relative, puisqu'elle reste fortement liée.
On parle d'ailleurs de plus en plus d'intégrer l'enseignement du code informatique à l'école. Est-ce à dire que le code informatique est un langage au même titre que l'anglais, le latin, l'allemand?
D'abord, je sais pas pourquoi on s'est mis à dire code informatique. Ça donne de mauvaises impressions, de mauvaises idées. Dans le temps, on appelait ça programmation, tout simplement. Et ça dit bien ce que ça veut dire. Ensuite, on peut pas comparer ça avec l'anglais et l'allemand. On peut plus le comparer avec le latin qu'avec l'anglais et l'allemand. Parce que l'anglais et l'allemand sont des langues vivantes qui s'apprennent par le dialogue, qui s'apprennent par l'imprégnation, alors que le latin est une langue qui s'apprend par règles grammaticales. Et le latin se pratique toujours en tant qu'exercice de traduction, soit en thème, soit en version. Alors que dans les méthodes modernes, on ne fait guère d'exercice de traduction pour l'apprentissage. On essaie de permettre à l'apprenant de directement comprendre et parler dans la langue que l'on est en train de lui apprendre. Et il ne faut surtout pas faire cette bévue, commettre ce malentendu qui consiste à dire que mathématiques c'est un langage, que la programmation c'est un langage, et que donc c'est partie de la langue. C'est pas vrai. Ça fait intervenir des circuits neuronaux différents, ça fait aussi intervenir des apprentissages différents. Il y a d'un côté les langues qui servent à communiquer entre humains, d'un autre côté, les langues qui servent dans le combat entre l'humain et la compréhension de du monde, qui servent à encoder, pour le coup, les choses de manière précise, de manière quantitative, et qui fournissent un langage utilisable par d'autres sciences. Et là, nous avons la mathématique. Et le latin, on peut considérer que son intérêt principal est la discipline, que l'on doit s'efforcer de faire, la gymnastique qui oblige à intégrer les ensembles de règles, de combinaisons, de configurations qui sont un peu les mêmes que celles auxquelles on doit s'astreindre pour un raisonnement mathématique et également les mêmes que celles auxquelles on doit s'astreindre pour un raisonnement informatique. La programmation à l'école, je sais pas pourquoi on en fait tout un foin en France, parce que c'est quelque chose de normal. Ça fait très longtemps que ça devrait être obligatoire pour tout le monde, et encore plus à notre époque où il y a des logiciels très appréciés des enfants tels que Scratch, des programmes très appréciés pour des langages de programmation très appréciés pour donner beaucoup d'autonomie aux enfants. À partir de 10 ans, on peut commencer à programmer en Scratch. Et ça des avantages pédagogiques considérables, même sur l'enseignement mathématique, la programmation. Je ne dis pas que ça va remplacer l'enseignement mathématique ou que ça va remplacer dans un autre domaine l'enseignement du latin. Mais pensez-y que c'est quasiment la seule discipline dans laquelle l'enfant peut réaliser son autocorrection. Un programme informatique qui ne marche pas, qu'il est faux, ça se traduit tout simplement par le fait qu'il ne s'exécute pas quand on le lance, ou qui donne un résultat visiblement erroné. Alors qu'une preuve de mathématiques fausse, bien vous avez besoin que le professeur vous dise où est la faute. Vous pouvez persévérer dans l'erreur sans jamais qu'aucun indice vienne vous remettre sur la bonne voie. Donc la programmation, non seulement c'est une discipline importante, non seulement c'est une discipline qui est en partie la clé du monde qui nous entoure, mais aussi c'est la clé vers la compréhension de la logique mathématique. Et aussi, c'est une discipline dans laquelle il y a beaucoup plus d'autonomie pour l'enfant que les autres.
Je voudrais peut-être revenir un instant sur l'institut dont vous vous occupez, Henri Poincaré. Voilà. Au fond, quel est le lien entre cet institut, s'il y en a un, et tout ce que vous venez de nous expliquer, et comment est-ce que vous imaginez mettre un peu en pratique, le développement du digital d'un côté, le développement des sciences, des mathématiques. Est-ce que vous faites des passerelles entre des sociétés comme Facebook, comme Google, qui font eux-mêmes leurs propres recherches scientifiques? Comment vous voyez ça? Parce que vous avez un regard moderne sur le sujet, en même temps ancien aussi, connecté avec la philosophie dont vous avez parlé. Bref, comment est-ce que, en tant qu'homme d'action, là, cette fois-ci, vous imaginez mettre les choses en place sur ce thème-là?
Oui. Je suis en train d'achever la 6e année de mon mandat à l'Institut Henri Poincaré. Et il me restera encore 4 ans avant d'avoir achevé mon mandat complet, un double mandat complet. Sur quoi fonctionne l'Institut Henri Poincaré? Fonctionne sur la promotion de valeurs en lesquelles nous croyons beaucoup, qui sont l'accueil, l'échange, la communication, l'universalité et le dialogue. L'Institut fonctionne comme un hôtel à programmes thématiques où sont invités chaque année des chercheurs par centaines, mathématiques et sujets liés. aucun chercheur permanent à l'Institut Henri Poincaré, c'est une règle importante, juste le directeur et son directeur adjoint. Et à l'Institut, nous croyons beaucoup en le contact physique, le fait que les gens, pour interagir de manière efficace, doivent être dans les mêmes lieux, dans nos locaux, à quelques mètres carrés les uns des autres. Cela n'empêche que nous, bien sûr, nous utilisons les ressources modernes du numérique pour développer notre action, à travers des captations, à travers des activités en ligne, à travers la mise en place cette année pour la première fois d'un FLO, formation en ligne ouverte à tous, à travers la également le fait que nous allons développer dans les années qui viennent un musée mathématique qui sera en partie basé sur le numérique et qui aura pour but de mettre ensemble les sphères de la pédagogie, de la recherche et du monde de l'entreprise, du monde industriel, pour expliquer à tous qu'est-ce qu'il y a de mathématique dans les algorithmes modernes qui domine une partie de la vie du monde maintenant, et aussi quoi la mathématique se retrouve associée à d'autres disciplines dans des projets technologiques. Et certaines des grandes entreprises qui donnent le la en la matière seront associées à nous, des partenaires à la fois en termes de ressources financières, mais en termes de programmation culturelle. Qu'est-ce que nous voulons montrer à nos enfants sur la place de la mathématique dans notre société et son mariage avec l'informatique, avec la technologie?
Écoutez, ça s'annonce plein de promesses et hâte de voir ce musée. Merci beaucoup.
Merci Cédric Villani.
Lila et Jean, merci. On revient dans un instant pour la suite de cet atelier avec notre web stratégie. On va s'intéresser à la transformation numérique de la RATP dans une minute. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Les tops et les flops de cette saison high-tech. Quels sont-ils? Quels sont ceux qui ont été, on va dire, sélectionnés par l'équipe de l'atelier? Ce sera notre passion selon sonnette un peu particulière pour cette dernière émission de la saison. Ce sera dans un instant. Mais auparavant, notre web stratégie, dans cet atelier sur BFM Business, et on s'intéresse à la transformation numérique de la RATP, Lila Megrawa.
L'atelier numérique sur BFM Business. La web stratégie.
Oui, François. Alors, pour terminer cette saison, on va s'intéresser à la transformation numérique du groupe RATP. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Tien Tan Trong. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Tien Tan Trong, vous êtes DSI du groupe RATP. Racontez-nous un peu quand et comment vous avez commencé à réfléchir, à engager cette réflexion sur le numérique.
Alors, si on doit parler de la réflexion numérique de la RATP, il faudrait juste positionner d'abord le terreau dans lequel on se place. Et ce terreau, c'est une entreprise qui fait beaucoup d'innovation. Elle est bien connue, cette innovation. On est leader mondial sur les métros automatiques et le pilotage automatisé des métros. On a fait beaucoup de choses aujourd'hui sur le bus électrique, puisqu'on s'est lancé dans un programme de bus électrique ambitieux pour les Franciliens. Et quand on regarde les innovations dans le domaine du digital, on a fait plusieurs choses. On a commencé par un site, notre site ratp.fr, dès 1996, où on y a mis de l'information voyageur. On a continué en 2007 avec l'application RATP, l'application sur smartphone. Donc voilà, ça c'était des éléments qui prépositionnaient la politique digitale de la RATP, qui lui donnait son élan. Et si on doit regarder aussi ce qu'on a pu faire dans les années 2000... On a fait un grand programme que les Franciliens et les Parisiens connaissent bien, qui est le programme qui est lié à ce qu'on appelle Ciel, le service d'information voyageurs, qui donne les temps d'attente, par exemple dans le métro, le temps de passage du prochain métro, dans le bus, les temps de passage des prochains bus. Et tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de techniques, c'est beaucoup, beaucoup de technologies qui nous amènent aujourd'hui à voir de l'information voyageur qu'on s'est proposé dans le monde, dans l'écosystème digital de la RATP. Donc c'est cet esprit d'innovation, ces innovations très concrètes qu'on a pu faire et tout ce système qu'on a mis en place qui aujourd'hui nous place dans ce système digital. Pour la ligne de conduite que nous avons choisie, nous avons naturellement placé au centre l'information voyageur puisque c'est la première demande de nos voyageurs autour du digital, autour du numérique. Et beaucoup de choses se sont articulées dessus et autour de l'information voyageur, nous avons bâti notre stratégie digitale.
vous avez un public, on va dire, une clientèle des passagers urbains, connectés, plutôt impatients. Comment est-ce que vous les accompagnez sur l'information, à la fois avant, pendant et après le trajet ?
Alors, avant, ils ont deux façons, nos voyageurs, de se renseigner. Ils ont aussi RATP.fr avec un moteur de recherche d'itinéraire. RATP.fr, c'est 5,5 millions connexions par mois. 5,5 millions visiteurs. Premièrement, quand on est chez soi, par exemple, ou au travail, on peut préparer son trajet à partir de RATP.fr. Et ensuite, quand on commence à être dans la rue, à accéder à son métro, à son RER, son bus ou son tramway, on a l'application mobile RATP. C'est 2 millions d'utilisateurs par mois. Et là, on a quoi comme information ? Recherche d'itinéraire pour préparer son trajet. L'application mobile permet de connaître exactement les horaires réajustés s'il y a un événement. Et ensuite, on a des systèmes d'alerting. L'alerting, ça permet de se dire, sur mon trajet favori, sur mon trajet habituel, quotidien, je souhaite avoir des informations s'il se passe quelque chose. Et cet alerting fonctionne bien. C'est derrière de la notification que nous envoyons pour prévenir nos voyageurs s'il se passe quoi que ce soit. Ensuite, le voyageur fait son trajet. Et enfin, il arrive à son lieu de destination. Deux choses, dans la très grande majorité des cas, et c'est notre fierté et toujours notre objectif, c'est que ça se passe très bien. Il se peut qu'on ait des incidents. Et là, nous avons un devoir d'expliquer à nos voyageurs ce qui s'est passé. Et là, on a, dans notre écosystème digital, on a un site qui s'appelle RATP Scope, qui est là pour que, quand nos voyageurs souhaitent débriefer, en quelque sorte, un incident qui a duré un peu plus longtemps que d'habitude, heureusement, c'est pas très fréquent, puisque nous avons quand même de bons indicateurs de régularité, mais quand ça arrive, qu'on puisse débriefer et regarder ce qui s'est passé. Quand, par exemple, il y a eu malheureusement un incident grave de voyageurs, que s'est-il passé ? Pourquoi on a mis un certain temps à redémarrer ? Qu'est-ce qu'il y a en coulisses ? Et donc là, on veut créer cette proximité avec nos voyageurs pour leur expliquer notre métier, la façon dont on exerce notre métier pour servir nos voyageurs et leur donner cette vision sur ce qu'on fait chez nous. Donc on est avant recherche d'itinéraire, temps, pendant éventuellement alerting et après, éventuellement, dans les quelques rares cas d'incidents un petit peu sérieux, on donne ce débrief. Alors, on a cette palette qui accompagne le voyageur tout le long. Cette palette que nous avons, on l'a décrit dans le digital, nous l'avons aussi dans, j'allais dire, le monde réel, quoi. Nous mettons aussi beaucoup de bornes d'information voyageurs qui sont des petits écrans qui permettent pour nous de pousser cette information pour les gens qui ne sont pas connectés avec un smartphone. Voilà donc la palette de ce que nous déployons pour accompagner le voyageur qui est dans la veine digitale.
Cette année, se déroule à Milan l'Expo universelle. La ville de Milan a saisi l'occasion pour se lancer dans une réflexion, une démarche de ville plus intelligente. La mairie de Paris, la ville de Paris qui engage également la réflexion. Vous, est-ce qu'on pourrait se dire que le projet Grand Paris pourrait être l'occasion pour la RATP de se lancer dans la réflexion pour une ville plus intelligente?
Sur le Grand Paris, nous sommes très engagés auprès de la Société du Grand Paris pour faire des propositions dans le domaine digital. Et on sait qu'on aura des réseaux à très haut débit qui vont courir le long des voies. On sait qu'on a des ambitions de mettre de la connectivité à l'intérieur des stations, des gares et des lignes. On sait aussi qu'on pourra avoir des bureaux de passage ou des labs à l'intérieur des futures gares du Grand Prix. En tout cas, c'est les projets qui existent par la GP et des projets auxquels nous sommes totalement associés en tant que contributeurs et je crois contributeurs majeurs compte tenu de la place de la RATP au sein de la ville.
Pour revenir à la problématique de la connectivité, est-ce que ça fait partie des grands chantiers de la RATP sur les deux prochaines années, d'améliorer la connectivité en rames de métro?
Oui, alors vous avez bien raison de souligner ce projet. C'est un projet auquel on tient beaucoup au sein de la RATP et on y tient en relation naturellement avec les opérateurs de télécom dont c'est le métier d'apporter cette connectivité. Alors on a lancé un projet d'équipement 3G, 4G dans nos espaces et la 3G, 4G en termes de technologie est la technologie que nous avons choisie pour apporter cette connectivité, parce qu'elle est valable. en lieu fixe les gares et les stations. Elle est valable en situation de transport, donc dans nos rames, dans nos trains. Ce qui est le pourquoi de cette technologie et qui la différencie du Wi-Fi. Alors, on est engagé là-dessus et on a un programme qui est déjà avancé. Moi, par exemple, en tant que simple utilisateur des transports du RER, j'utilise avec mon opérateur de télécom de la 3G 4G sur la ligne A du RER, puisque c'est celle que j'utilise quand je vais travailler. Donc, on a déjà un déploiement de la connectivité qui est déjà en place au sein de nos réseaux. Et c'est un programme qu'on va continuer. On a commencé par la ligne A, la ligne B, la ligne 1, où on aura la connectivité d'ici la fin de l'année. Ensuite, on va travailler sur deux choses. On va travailler sur, naturellement, les autres gares et stations du réseau. Et on va travailler sur la capacité, parce qu'on sait que nos voyageurs seront de plus en plus friands d'utiliser, de consommer de la data dans nos espaces. Et ça, c'est un programme 16-17 qui va se poursuivre pour apporter cette connectivité pour nos voyageurs.
Merci beaucoup. Tienne Tantron, je rappelle, vous êtes DSI du groupe RATP. Merci.
Merci Lila, on revient dans un instant avec notre passion selon Sanet. Quels sont les tops et les flops de cette saison dans le monde des nouvelles techno? On voit ça avec toute l'équipe de l'atelier. À tout de suite.